Vous écoutez
RMC.
RMC, 6h-9h,
Bourdin Direct.
Il est 7h47, professeur Xavier Lescure. Les vaccins, la course aux vaccins s'est accélérée, c'est fou. On n'a jamais vu ça, vous n'avez jamais vu ça, vous êtes infectiologue. Vous n'avez jamais vu autant de d'essais partout, de projets partout dans le monde, projets de vaccins.
Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu 20 000 publications en 3 mois et demi sur la même maladie. On n'a jamais vu près de 2 000 essais cliniques sur la même maladie en 3 mois.
Ah, c'est fou. Alors, les traitements, puisque ça... Parlons d'abord, avant de parler des vaccins, des traitements. Aujourd'hui, je le répète, je vous pose la question, est-ce qu'on sait... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un traitement qui permet d'atténuer ou de ne pas être infecté par ce coronavirus? Est-ce qu'il existe ce traitement?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un traitement, puisque il y a, dans la maladie, il y a trois entités, il y a trois phases, il y a trois dimensions différentes. Il y a l'infection du virus et ce qui va déclencher au niveau de l'inflammation, de la réaction du système immunitaire. Et puis, des complications, il y a beaucoup de complications vasculaires, les vaisseaux sont atteints. Et donc, on a beaucoup ce qu'on appelle de maladies thromboemboliques, d'embolies pulmonaires, etc. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas de traitement spécifique contre le virus.
Il n'y en a pas aujourd'hui.
Il n'y en a pas. On a des signaux de faible intensité sur certaines molécules qui doivent être confirmées. Mais je pense que malgré tout, on prend mieux en charge les patients qu'au début parce qu'on connaît mieux la maladie et que sur les deux autres versants, inflammatoire et thrombotique, on a amélioré la prise en charge.
Oui. En ce qui concerne les vaccins, donc c'est l'OMS qui dit qu'il y a plus de 100 projets en lice dans le monde, 110 je crois, avec des essais cliniques, hein, d'une dizaine, un peu partout dans le monde. Pensez qu'on va trouver rapidement un vaccin?
Rapidement, non.
Un vaccin fiable, hein, je parle pas de... Bon, parce que j'ai vu que les Chinois étaient déjà sur le point de commercialiser peut-être un vaccin, mais qui n'a apparemment pas beaucoup de fiabilité.
Il faut 12 à 18 mois pour qu'un vaccin soit développé et atteigne ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché.
Mais avant la crise, peut-être qu'on va plus vite maintenant, non?
Oui, alors malgré tout, il y a quand même... C'est très compliqué. Faut prendre beaucoup de précautions.
Oui.
Quand on touche à l'immunité, c'est quand même assez complexe.
Oui.
Faut tester les effets secondaires, la tolérance, etc.
Oui.
Et puis, au-delà de l'efficacité, après, il y a des questions de santé publique sur l'image des vaccins, par exemple, en France.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous avez vu que Sanofi, vous avez vu ça? Sanofi qui voulait réserver, parce que le gouvernement américain s'est engagé financièrement auprès de Sanofi dans la recherche d'un vaccin, veut réserver ses premiers vaccins, les premiers jours, les premières semaines, aux Américains. Alors Sanofi a un peu rétro-pédalé en disant, oh là là, mais non, en Europe aussi, on va travailler avec les gouvernements allemands et français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous surprend ou pas?
Les industries pharmaceutiques sont totalement mondialisées et c'est pas parce qu'on a un des fleurons de l'industrie pharmaceutique française, Sanofi, qui est français, qui travaille avec des partenaires internationaux. L'argent est beaucoup aux États-Unis. La prise de risque a été américaine, il n'est pas anormal qu'il y ait un retour sur investissement.
Ça ne vous choque pas? Franchement.
C'est un peu provoque. Je pense qu'il y a un peu de provoque. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'épidémie américaine, aujourd'hui, est beaucoup plus sévère que l'épidémie française. Et qu'on ne sait pas ce qui se passera dans quelques mois, mais c'est vrai que la population américaine est beaucoup plus à risque de faire des formes sévères. Et aujourd'hui, ils ont une incidence qui est vraiment exponentielle. Donc c'est un des pays les plus touchés au monde. Ce n'est pas étonnant qu'on privilégie cette population-là. Et puis, je pense qu'il y a un petit message aussi de com au gouvernement français et aux citoyens français, c'est que...
Et au gouvernement allemand aussi.
Aussi, mais je parle de la France. C'est qu'on est le pays le plus réservé vis-à-vis de la vaccination. 45 à 50% des Français sont plutôt anti-vaccination. Ça fait mal, surtout que Pasteur... les vaccins, c'est la France.
Mais c'est oui.
Et donc, c'est quand même un paradoxe total. Et je pense que ce message ne s'adresse pas uniquement au gouvernement français.
Ouais, j'ai compris. Il s'adresse aussi aux Français.
Je crois aussi.
Autre conséquence de cette crise, c'est l'organisation de l'hôpital. Là, vous dites attention à la possible troisième vague. Hein. Ouais. Il y a eu la vague sanitaire, la vague économique et une vague sociale à l'hôpital. Une vague
qui avait
dans
déjà
le fonctionnement.
Un peu démarré avant l'épidémie. Il y a eu une espèce d'interaction temporelle. C'est-à-dire qu'on était en train de... Nous, on avait la crise de l'hôpital depuis... Je crois que ça fait à peu près 10 à 15 ans que la gouvernance, que le mode de fonctionnement à l'hôpital a changé. Et je pense que ça faisait plusieurs mois, voire quelques années, qu'on commençait, nous, soignants, à ressentir les limites de ce modèle, basé sur la tarification à l'activité, sur des contraintes financières. Oui. On ne parlait que de chiffres. Des schémas directeurs, etc. Alors, c'est bien, il faut que ce soit organisé. Sauf que on peut pas miser, on peut pas regarder que les chiffres d'activité et que les finances. Et cette crise nous a fait, paradoxalement, il y a eu des moments très douloureux, mais il y a eu des côtés positifs. Il faut toujours essayer de les regarder, surtout quand on se retourne. Et les côtés positifs, c'est que moi, je suis médecin depuis début 2000, et la tarification à l'activité, c'est 2001 ou 2002. Donc j'ai vu à peu près comment ça fonctionnait avant, et j'ai vu 15 ans d'évolution, 20 ans d'évolution. J'ai un peu l'impression d'être un vieux con, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de changements en 20 ans que je fais partie presque de l'ancienne génération. Aujourd'hui, la crise Covid a permis que les administrations et les soignants regardent au même endroit, l'endroit du patient. On a regardé en même temps et on a regardé en même temps au même endroit et on a vu l'efficacité, la synergie. On a vu des choses incroyables et on a fait, je pense, des choses assez incroyables. On a innové, on a fait preuve d'une agilité dont je pense personne n'aurait pu penser avant cette crise qui était on avait un hôpital un peu empêché dans une crise.
Ça veut dire, professeur Lescure, que rien ne doit être comme avant. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent.
Alors. Oui, je crois. Et je pense que les directions l'ont compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, la crise, l'épidémie, peut-être que je me trompe et je suis un grand naïf, mais je pense que les directions qui étaient dans une... On le sentait, hein, ils étaient dans une injonction paradoxale. Ils étaient probablement... Il y avait beaucoup de devoirs de réserve au moment du collectif interhospitalier. Et cette crise a permis à certains directeurs de sortir de ce devoir de réserve. Dans des cellules de crise, on s'est beaucoup rapprochés. Et on a senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Et aujourd'hui, je crois que ni les soignants, ni les directions, ni les administrations sont prêts à revenir à l'état antérieur. Il faut que les politiques et que les citoyens le comprennent aussi pour défendre cet hôpital et ce système de soins qui a été efficace, mais qui a montré certaines failles dans cette révélation qui a été Covid. Par exemple, le niveau de santé publique en France.
Eh bien, merci, professeur Lescure. Le message est envoyé. Hein, nous verrons s'il est reçu.